Europe 1, 9h-11h, le club de l'été. Thomas Hill.
Bonjour à tous, quel bonheur de vous retrouver pour ce club de l'été. Deux heures de bonnes idées qui vont pimenter la saison. Un club de l'été particulièrement chaud aujourd'hui, il faut bien le dire, je dirais même caliente, parce que notre invité est l'un des réalisateurs du film Les Fantasmes, un film mi-marrant, mi-excitant, qui sort demain sur vos écrans, riment en. C'est aussi et surtout l'un des auteurs français les plus lus dans le monde. Bonjour David Funkinos.
Bonjour.
Merci d'être avec nous jusqu'à 11h. On parlera bien sûr de votre nouveau film, mais aussi de votre parcours. Et puis on va vous tester tout à l'heure avec un petit blind test consacré bien sûr aux chansons un petit peu olé olé. On va voir si vous êtes un expert en la matière. Mais d'abord, laissez-moi vous présenter ceux qui font chaque jour fantasmer des millions d'auditeurs. Marjorie Adelson, salut.
Salut.
Comment ça va?
Ça va bien.
Quel est votre programme?
Eh bien, on va parler d'amour avec la série Modern Love. Et puis après, on ira du côté de la Bretagne pour découvrir les légendes arthuriennes.
Beaucoup d'amour, j'ai l'impression.
Beaucoup d'amour.
Aujourd'hui. Et puis le fantasque Joe Hume.
Le fantasme.
On va parler de quoi avec toi tout à l'heure?
Eh bien, nous allons parler de French Touch. Et puis ensuite, on ira de l'autre côté de la Manche pour une histoire pas piquée des hannetons à propos des Rolling Stones.
J'aime beaucoup cette expression. Avant 10h, notre invitée média sera Sophie Reville, créatrice et productrice de la mini-série Ils étaient 10, inspirée de l'œuvre d'Agatha Christie. Ça commence ce soir sur M6. N'hésitez pas à réagir à cette émission avec le hashtag Europe 1. Merci d'être avec nous. Le club est ouvert jusqu'à 11h.
Europe 1, 9h-11h, le club de l'été. Thomas Hill.
Comment ça va, David, sèche-cheveux du cinéma?
Ça va très très bien.
Parce que c'est la traduction. Ouais, c'est la traduction littérale de votre nom de famille en grec, c'est ça?
En allemand.
Ah, en allemand.
Fun, ouais, sèche-cheveux et kinos, cinéma, voilà, c'est en allemand.
Qui est mais je croyais qu'il était d'origine grecque.
Ah, c'est d'origine
nom.
Grecque, mais d'accord. Je me suis rendu compte que ça voulait dire sèche-cheveux, cinéma, mes deux passions.
C'est
qui sont
mal.
Dans mon nom, c'est quand même incroyable.
Le cinéma et les cheveux.
Exactement.
Deux passions réunies dans un nom. Faites-nous un cours d'ailleurs de prononciation, parce qu'il y a plusieurs écoles. J'ai vu des journalistes prononcer votre nom de différentes manières. Alors dites-nous quelle
Alors,
est la bonne prononciation.
Alors pour moi, ça n'a pas du tout d'importance, mais c'est Fuenkinos, mais vous pouvez l'écorcher avec grand plaisir. Tout me va très bien.
Parce que Thomas, Funkinos.
Moi j'aime bien que ce soit un peu
bah, c'est bien, funky, ça a son petit réveil matinal, sympa.
Ça sonne un peu quoi.
Non, je suis pas du tout susceptible du nom.
Bon, ça va. En tout cas, on a appris plein de nouveaux mots pour le Scrabble grâce à vous. La ludophilie, ça veut dire être excité par l'idée de jouer un rôle. La dacryphilie, être excité par les larmes. La sorophilie, être excité par la sœur de l'être aimé. C'est ce qu'on appelle des paraphilie, mot qu'on double là aussi, et vous en avez recensé 250 avec votre frère Stéphane.
Oui,
pour
alors elles
ne
sont pas
film.
250 dans le film,
non,
hein. on en a choisi 6 dans le film.
L'expérience cinématographique de 24 heures.
6 fantasmes, alors on va des plus classiques, si j'ose dire. La ludophilie, c'est assez classique, c'est celle de jouer un rôle. Pimenter sa vie à deux. C'est le cas dans notre film avec Denis Podalydès et Suzanne Clément après 20 ans, voilà, pour s'émoustiller un peu.
Il va faire le gendarme. Voilà,
exactement. C'est et puis,
bon
ça, il commence à faire des rôles et ça dérape un petit peu. Il y a celle de se filmer. Ça, c'est ce qui arrive à Jean-Paul Rouve et Karine Viard dans le film.
C'est excellent.
Et puis des fantasmes un peu plus tordus, un peu plus extrêmes.
Ah, c'est vrai que pour moi, c'est le meilleur couple. Hein. C'est celui formé par Karine Viard et Jean-Paul Rouve qui aiment bien se filmer en faisant l'amour. Mais lui, il a envie d'aller plus loin. Et un jour, un acte manqué, il envoie leur sextape sur Internet et se retrouve à lire les commentaires des internautes sur sa femme.
Écoutez, regarde les commentaires.
Les commentaires?
Bah oui, regarde là. Tiens, au hasard, elle envoie du lourd, la daronne.
Moi?
Oui, c'est toi. Suce-moi la milf, t'es kiffante. T'es kiffante, mon amour.
C'est de la cougar de bâtard. Oh mon Dieu, il y a une faute à chaque mot.
Mais les gens sont contents, c'est ça qui compte. Tiens, et regarde autre chose, les catégories. Regarde, cocu. Triplette, passe un linge, vomi, il y a des gens qui sont excités par le vomi. Non mais tu te rends compte? Mais nous on est des petits joueurs à côté, on est bien sages.
Je sais pas si on est bien sages, mais en tout cas on est bien dans la merde.
Voilà, ça c'est
vous êtes sûr que nous sommes dans une émission matinale là?
Ça passe, franchement.
C'est un film tout public, hein, je vous rassure.
Oui, c'est tout public.
Alors, c'est le gourdin du matin. Hein.
Il y a des fantasmes que vous avez écartés dans la liste très longue, comme le fait de transformer son conjoint en meuble. Là aussi, je pense qu'il y a un bon potentiel.
Oui,
comique.
Ça c'est la forniphilie. Alors on l'a écarté, il n'est pas dans le film.
Ce sera
mais c'est
film.
Vrai qu'on a failli, ça nous faisait vraiment rire, peut-être pour la suite. c'était l'idée de transformer effectivement son partenaire en meuble. Donc le transformer en table, ouais. en lampe.
Ce soir, Gérard, tu seras un placard.
Voilà. Exactement, voilà. Mais il y a des soirées. Mon frère est allé dans une soirée fornifilie, il m'a raconté.
Ah oui,
oui, c'est assez passionnant. Donc après, voilà, on avait commencé à écrire une histoire. Ça a débuté chez Ikea. Il s'excitait en train de chercher des meubles spéciaux. Et puis finalement, on l'a pas sélectionné dans nos 6 histoires. Ce qui nous intéressait, c'était de prendre des fantasmes qui puissent potentiellement être source à comédie.
Oui, derrière, bien sûr. Et alors, il restait à trouver justement les comédiens pour porter tous ces fantasmes. Mais alors là, le casting, c'est vrai, il est assez incroyable. Hein. On l'a dit, Karine Viard, il y a aussi Monica Bellucci, Carole Bouquet, Jean-Paul Rouve, Ramzi Bedia. Ils étaient tous partants tout de suite parce que quand même, le scénario, il va assez loin. Quand vous dites, par exemple, à Monica Bellucci et Carole Bouquet qu'elles vont incarner un couple excité par la mort des autres, elles disent oui tout de suite.
Alors en plus, Carole Bouquet et Monica Bellucci, oui, ça ont été les plus rapides.
C'est
pratiquement
vrai
en 24 heures. En plus, très excitées l'une et l'autre de jouer ensemble. C'est vrai que Carole Bouquet, le matin du premier jour de tournage, a envoyé des SMS à plusieurs de ses amis en disant je vais vivre ta passion, ton fantasme, je vais passer la journée au lit avec Monica Bellucci. Et Monica, voilà, a dit récemment dans la presse que c'était son rêve d'embrasser Carole. C'est vrai que nous, c'était un fantasme pour nous de les avoir toutes les deux réunies, ouais. Ces deux James Bond girls. Et c'est vrai que sur un film comme ça, sur 3-4 jours, elles ont tout donné. Elles sont allées vraiment dans un esprit de liberté et d'amusement. Et c'est vrai que c'est très, très réjouissant pour nous d'avoir pu vivre ça.
Et voilà, ce film Les Fantasmes sort dès demain dans les salles obscures. Dans un instant, vous aurez le droit à votre portrait sonore et on va en savoir davantage sur vous, David Fuenkinos. Mais d'abord, c'est la tradition dans cette émission. On écoute une chanson que vous avez choisie vous-même. C'est Tears for Fears avec Everybody Wants to Rule the World. Tout le monde a envie de diriger le monde. On écoute. C'était Tears for Fears sur Europe 1 avec Everybody Wants to Rule the World. C'est l'excellent choix de notre invité David Fonkinos à qui on va tirer le portrait dans un instant.
Europe 1, le club de l'été. Thomas Hill.
En compagnie de David Fonkinos qui signe un film assez jouissif, Les Fantasmes, qui sort demain. Et c'est l'heure de votre portrait sonore, David. Des petits extraits qui devraient éveiller de grands souvenirs. Voici le premier. Ça vous parle, ça ?
Ah, moi j'ai été, c'était mon maître en guitare, c'était
Frank Zappa.
Frank Zappa, effectivement, c'est magnifique d'écouter ça. J'étais en école de jazz après le bac,
ouais.
Et c'est vrai que je me rêvais d'être guitariste, et puis je pense que c'est mieux pour tout le monde que voilà, j'ai abandonné tout ça.
Mais pendant longtemps, vous avez pensé être guitariste et non pas écrivain?
Oui, ouais, j'ai donné des cours pendant assez longtemps, j'étais prof, mais voilà, j'étais pas, j'avais un niveau... technique correcte, mais bon, j'avais rien de particulier.
Hein. Ah oui, d'accord. Ouais.
Mais c'est vrai que Zappa me fascinait. Pour moi, Zappa, avec son phrasé, c'était exactement comme une sorte de mélodie littéraire.
Ouais. Et ce goût pour la musique, pour le jazz en particulier, ouais. Ça part d'abord d'un moment difficile dans votre vie. À 16 ans, vous subissez une grave opération, c'est ça? Et vous êtes
oui,
sur
c'est
votre
ça.
Lit d'hôpital.
Ouais, j'étais pas du tout, moi, issu d'un milieu culturel. J'ai été très gravement malade, j'étais opéré du cœur. J'ai passé des mois à l'hôpital à 16 ans, et c'est vrai que, bah, comme tous les gens qui ont été gravement malades, après ça vous propulse dans une énergie de vie, de survie, ouais. De beauté, de sensibilité. Et je me suis mis à lire, à écrire, à aimer la peinture, à toucher tout ce qui pouvait être lié à la beauté d'une certaine manière. Et donc ça a été la musique pendant longtemps.
Ouais.
Et j'ai fait une école de jazz, et puis après progressivement, je me suis mis à écrire davantage.
Et l'écriture a fini par s'imposer.
Oui, puis parfois on choisit pas. C'est vrai que moi, je me suis acharné pendant des années à vouloir être musicien.
À monter des groupes,
je trouvais jamais de bassiste. Enfin, c'était toujours la cata, ça allait pas du tout. Et puis un jour, j'ai écrit un manuscrit, je l'envoie par la poste et j'ai été publié. Donc mon chemin était plus là.
Allez, prochain extrait.
Mais écoutez, je sais pas ce qui m'a pris. Je devais être en train de penser à autre chose et vous êtes arrivé et voilà. Écoutez, je sais pas quoi dire. Hein. Je suis désolée.
Mais désolée de quoi? C'était magnifique.
Ah bon?
Oui, c'était...
Enfin, il vaut mieux oublier tout ça, d'accord?
C'est impossible. Ce serait comme oublier le présent.
Un extrait du film La Délicatesse que vous avez adapté de votre livre, paru en 2009. On y entend là Audrey Tautou qui se jette sans raison sur un collègue de travail joué par François Damiens après qu'elle ait perdu son mari. J'ai vu d'ailleurs que vous avez pratiquement sorti le livre et le film en même temps. C'est assez rare, ça?
Non, le livre est sorti en 2009, mais c'est vrai que pendant qu'on tournait le film, le livre en poche, en édition poche, est devenu un phénomène et a dépassé un million d'exemplaires. Donc quand Audrey Tautou a dit oui, c'était incroyable pour nous, parce que ça faisait qu'un film par an, c'était un livre, on n'avait pas fait de film encore avec mon frère, le livre n'était pas connu.
Le livre au départ n'a pas très très bien fonctionné.
Non,
en fait,
pas
c'est
du
ça
tout, moi j'étais plutôt un auteur confidentiel, et le livre, en fait on n'a pas fait le film parce que c'était un livre à succès, et le livre n'est pas devenu un succès parce qu'il y a eu le film.
Ouais,
pendant
fou.
Qu'on tournait, on était stupéfait de voir que le livre en édition poche est devenu un phénomène, et c'est vrai que...
Ah, il dépassera le million d'exemplaires.
Ouais, et du coup les deux se sont télescopés d'une manière assez étrange. Mais c'est un moment magique dans ma vie, parce que c'est vrai que ce succès-là m'a donné une grande liberté après de pouvoir vivre de ce que j'aimais. Et évidemment, avoir la chance de tourner avec Audrey Tautou et François Damiens pour notre premier film, c'est inoubliable.
Sachant,
ça va faire 10 ans. Voilà.
Sachant que c'était votre premier film, alors vous aviez fait un court-métrage, je crois, avant avec votre frère.
Oui,
c'est
un
ça
court-métrage où on voyait avec des pieds, une histoire de pieds. je crois qu'on peut s'en passer, mais, mais bon, voilà, c'était important. Voilà. On a mis beaucoup de temps. Là. C'est vrai que Les Fantasmes, c'est notre troisième film, trois films en 10 ans, mais on a commencé à travailler, Stéphane et moi, il y a 20 ans, avec beaucoup de projets qui ne se sont pas faits. Et voilà, forcément, c'est un long cheminement.
Alors, justement, écoutez ce troisième extrait. Mon frère dans les 10 commandements. On vous a mis cet extrait parce que
c'est
vrai que vous avez
fait les 10 commandements.
C'est pas vous qui chantez là. Mais vous avez un lien extrêmement fort avec votre frère Stéphane pour être amené comme ça à réaliser trois films ensemble. Là, c'est le troisième long métrage, Les Fantasmes. Avant ça, il y a eu La Délicatesse, donc, et puis Jalouse en 2017. C'est fusionnel avec votre frère. Comment est-ce que vous arrivez à travailler aussi bien?
C'est impressionnant. On est vraiment complémentaires. C'est assez magique parce qu'on s'est retrouvé avec des capacités complémentaires. Stéphane a été un très grand directeur de casting, donc un lien très fort avec les acteurs.
Il a bossé avec les plus grands réalisateurs.
Oui, hein. Mais pareil, pas issu du tout d'un milieu culturel. Il était prof d'anglais. Puis un jour, le réalisateur Jacques Doyon le rencontre, lui donne sa chance. Et c'est vrai qu'il a travaillé avec beaucoup de grands réalisateurs, même jusqu'à Woody Allen ou Terrence Malick. Et c'est vrai que tous les deux, on est très très heureux de se retrouver régulièrement pour travailler ensemble.
Et Jacques Doyon qui vous encourage justement à travailler ensemble.
Mais ça aussi, il a été doublement important. C'est vrai qu'il a donné cette chance à mon frère. Et puis quelques années plus tard, alors qu'il était en panne sur un scénario et que je venais de publier mon premier roman, il a dit à Stéphane, tu devrais appeler ton frère, peut-être que vous pouvez ensemble essayer de voir ce que vous pouvez faire sur ce scénario. Évidemment, ça n'a jamais abouti. Mais en tout cas, on s'est rendu compte à ce moment-là qu'on pouvait peut-être travailler ensemble.
Et vous avez déjà d'autres projets ensemble?
Non, pas pour le moment. On réfléchit, on prend notre temps. On ne fait pas des films pour faire des films. C'est vrai que Les Fantasmes, on a travaillé beaucoup et longtemps sur ce nouveau film. Et là, on est en réflexion pour la suite.
Ce film, donc, il sort demain. Est-ce que c'est une frustration de le voir sortir dans cette période un peu compliquée pour le cinéma français?
C'est une frustration pour tous les films, mais en même temps, c'est très important de sortir le film pour soutenir aussi les exploitants, qu'il y ait des films en salle, parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui vont au cinéma.
Ouais.
Il suffit simplement d'un pass sanitaire et que espérons que la pluie arrive bientôt, mais je crois que Laurent Cabrol a dit le contraire, donc je suis hyper déçu. Mais à part ça, de toute façon, puis pendant un an, il n'y a pas eu de film, donc il va y avoir beaucoup, beaucoup de films qui vont sortir à l'automne.
Ouais.
Donc nous, on a pensé que c'est une comédie assez légère sur les fantasmes, sur le désir, sur le questionnement du désir, sur la sexualité. Donc on a pensé que c'était
ça
un film
bon
idéal
moment
pour l'été. Voilà.
Allez, dans un instant, on va parler musique avec Joe.
Ouais.
Qu'est-ce qu'on raconte?
On va parler French Touch dans quelques instants.
J'adore, à tout de suite.
Europe 1, le club de l'été. Thomas Hill.
Le club de l'été jusqu'à 11h avec notre invité David Fuenkinos. On a parlé musique jazz tout à l'heure, rock. Est-ce que la musique électronique, ça vous plaît aussi, David?
Oui, bien sûr, énormément.
Bon, ça nous arrange, ça nous arrange, je ne vous cache pas.
C'est pour ça, Daft Punk
immédiatement. Parce qu'il y avait un invité hier qui n'aimait pas trop ce dont on parlait, donc c'est mieux aussi.
Parce que là, on va parler d'une tendance qui nous a fourni quand même un sacré paquet de tubes de l'été depuis presque 30 ans. C'est plus qu'une tendance, c'est une fierté nationale, là, carrément.
Allez-y, c'est bon.
Ça y est, le mot est sorti.
C'est une exception, un moment un petit peu magique où les planètes pop, rock, électronique, hip-hop se sont alignées pour provoquer une sorte d'épiphanie durant laquelle un petit groupe d'artistes ont réinventé la musique de club, de boîte de nuit et l'ont emmené sur les ondes de radio du monde entier. Et cette parenthèse en santé, c'était la French Touch. David, vous qui êtes musicien, est-ce que ce mouvement, la French Touch, représente quelque chose de particulier pour vous? Je sais que par exemple que vous aimez beaucoup Cassius.
Oui, Cassius, I Love You So, et c'est la chanson finale de notre film.
Bah ouais. Ouais.
Voilà, je voulais vraiment la mettre. Moi j'adore. D'abord, c'est pour nous, c'est de la musique qui entraîne, qui donne envie de danser.
Ouais.
Et évidemment, on pense à Daft Punk, par exemple, ou Air. Voilà, ce sont des grands génies. Hein.
Ouais, on va en
donc,
parler.
Il y a des immenses compositeurs.
Ouais. Et puis on rend hommage à Philippe Zdar. Ça fait 2 ans maintenant, la moitié de Cassius qui nous a quittés et qui effectivement, c'était un artisan discret de la French Touch, mais il a fait énormément pour ce genre musical. La French Touch, en fait, c'est un terme qui a été popularisé par la presse anglaise, très impressionnée par cette nouvelle vague d'artistes de musique électronique un petit peu hybride. Le magazine britannique Music disait carrément qu'il devait y avoir un truc magique dans l'eau de la Seine et qu'il faudrait le mettre en bouteille. Tu sens que les mecs n'ont jamais foutu un pied dedans, hein, cela dit, parce que l'eau de la Seine, perso, moi, le qualificatif qui me vient à l'esprit, c'est pas vraiment magique.
Non, pas vraiment. Mais alors pourquoi est-ce que tout d'un coup l'Angleterre écoutait ce qui se passait en France?
Parce qu'à la fin des années 90, le phénomène Britpop, donc Blur, Oasis, Pulp, tous ces groupes-là commencent à s'essouffler. Et au Royaume-Uni, il y a une sorte de petit vide artistique que la France va venir combler. Et si les premiers artistes ou DJ comme Motorbass ou Étienne de Crécy vont poser les bases, l'explosion se produit vraiment en 1997 à Versailles. Allez. Around the World, répété 144 fois dans la version album, je tiens à le signaler. Ce sont des chiffres importants qu'il faut avoir toujours sur soi. Avec leur premier album Homework, puis les suivants également, hein, le duo Daft Punk va changer et faire de la France la nouvelle mecque de la musique électronique et même de la pop en général, hein, parce que si à la base leur son vient de la scène techno, pour parler large, on y retrouve aussi du rock, du hip-hop, du disco, tout un tas d'inspirations qui vont faire de la French Touch finalement un mouvement très très varié. Là voilà, on entend un extrait de Moon Safari, le premier album de R, effectivement, et au début de sa carrière, il se faisait même appeler R French Group, histoire qu'on soit bien sûr de
où il vient. Ça devenait une marque,
sur
quoi,
le premier album de R, il y a écrit R et French Group juste à côté, on l'oublie un petit peu, mais c'était écrit dessus, histoire qu'on comprenne bien d'où ils viennent, et là on est très loin finalement de la musique de Dancefloor. Et puis il y a aussi des groupes qui ont réussi à faire le grand écart, un truc un petit peu magique entre le rock et les clubs, comme Phoenix.
Très efficace, hein.
Très très efficace, mais une formule rock classique, guitare, basse, batterie, chant, avec néanmoins cette French Touch, quoi, ce truc qui fait que on a envie d'aller danser dessus. La French Touch qui a été également un des très gros pourvoyeurs de tubes qui ont rythmé nos étés, souvenons-nous-en, de la fin des années 90 au début des années 2000. Superman Lovers avec Starlight, par exemple, en 2001, t'allais en club de vacances, t'étais sûr de l'entendre au moins une fois par jour au bas mot. Pareil pour Mojo avec leur single Lady l'année précédente. Je suis navré, je suis en train de vous mettre des chansons dans la tête pour à peu près toute la journée. Quand on est efficace,
ouais,
je ne peux rien y faire. Ce qui est étonnant avec le mouvement French Touch, c'est que s'il a créé des sons indémodables, des mélodies comme ça qu'on peut fredonner n'importe quand, qu'on reconnaît aux premières notes, qui ont cartonné partout dans le monde, tous les artistes qui lui ont donné naissance sont restés finalement très discrets. Les mecs de Daft Punk, on les reconnaît pas dans la rue. Étienne de Crécy, Alex Goffer, tout le monde a dansé sur leur musique, mais leur nom ne parle finalement qu'aux initiés. C'est un grand paradoxe qui rend la French Touch encore plus fascinante pour les anglo-saxons qui, eux, généralement adorent les rockstars et les grandes personnalités.
Ouais, c'est vrai. Bah alors après, on est d'accord que la French Touch, à un moment, elle s'est quand même un peu essoufflée.
Ouais, disons qu'il y a un moment, comme souvent, où il y a eu un trop-plein, une sorte de ras-le-bol. Même les artistes qui étaient estampillés French Touch, ils n'en pouvaient plus de cette étiquette. Et si on doit vraiment dater la fin de la French Touch, moi j'ai une petite théorie perso, c'est que ça a commencé avec l'arrivée de ce générique.
Ah oui, oui. Ah, c'est intéressant comme théorie.
Bah oui, c'est une théorie, le générique de Love Story 2000, il me semble. C'est les codes de la French Touch mis au service de ce qui était perçu à l'époque par les artistes, en tout cas, comme ce qui pouvait leur arriver de pire à leur musique. Une sorte de récupération des grands médias comme ça qui leur plaisait pas. Et à partir de là, on parlera de moins en moins de French Touch.
C'est 2001 exactement, ce qu'on vient de fêter là, les 20 ans de Love Story. C'est quoi le dernier gros tube de la French Touch?
Alors moi je dirais qu'il faut remonter en 2007 avec la sortie du premier album de Justice, particulièrement le morceau Dance, qui se plaçait vraiment dans cette tradition de la French Touch comme étant une musique aventureuse, moderne, mais aussi construite sur des samples et des trucs très vintage.
Ah, ça, c'est mes années
lycée. Ah bah. Oh, elle est énervante.
Elle est énervante à te donner des coups de vieux comme ça, là.
C'est pas la peine de le dire, ça. Vraiment, c'est désagréable pour tout le monde, Marjorie. Merci beaucoup, bah, Joe.
Merci à vous.
Restez avec nous parce que dans un instant, notre invité média sera Sophie Reville, productrice des Petits Meurtres d'Agatha Christie sur France 2 et de la nouvelle série de M6 qui démarre ce soir. Ils étaient 10. On arrive.
Europe 1, le club de l'été. Thomas Hill.
Le club de l'été de David Frankinos, vous avez vu, hein, vous êtes quand même hyper bien reçu. Il y a quand même de la pub pour votre film au sein d'une émission dans laquelle vous êtes invité.
C'est un minimum.
C'est quand même la classe. Bon, alors, notre invité média du jour a adapté en série le roman le plus célèbre d'Agatha Christie, Ils étaient 10. On pourra en découvrir ce soir les deux premiers épisodes sur M6. Bonjour Sophie Reville.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes déjà la directrice artistique de la série des Petits Meurtres d'Agatha Christie qui cartonne sur France 2 depuis 12 ans. Qu'est-ce qui vous lie à celle qu'on surnomme la reine du crime ?
Bah, je crois que ça vient de l'enfance. Hein. Comme beaucoup de gens, Agatha Christie, c'est les premiers romans d'adultes que j'ai lus. Pour vous dire, les Diptynèques, j'avais 10 ans quand je l'ai lu, j'avais été absolument terrifiée. Et en fait, on prend les enfants, on leur donne les Agatha Christie, ça a un parfum de vieille dame, de tasse de thé, mais en réalité, c'est d'une noirceur totale. C'est la découverte de la lutte entre le bien et le mal, de la noirceur de l'âme humaine, puis des masques aussi, c'est-à-dire l'idée que personne, on ne connaît jamais vraiment quelqu'un, qu'il y a toujours des secrets, quelque chose qui se cache. Donc ça m'a fasciné, puis c'est resté, quoi.
Et,
voilà.
c'est resté en vous, et vous continuez à le décliner, parce que donc ce soir sur M6, les téléspectateurs pourront découvrir les deux premiers épisodes sur 6 de cette donc mini-série « Ils étaient 10 », avec plus de 100 millions d'exemplaires, ce livre, hein, c'est le plus vendu des romans d'Agatha Christie. Il a été adapté plusieurs fois au cinéma, au théâtre, pour la télé aussi. Comment est-ce qu'on fait justement pour se distinguer des autres ?
Ouais, c'est le roman policier le plus vendu au monde depuis, voilà. En fait, c'est en 2015 que l'arrière-petit-fils d'Agatha Christie, donc qui gère l'héritage, hein, il s'appelle James Pritchard. C'est un Anglais qui a beaucoup d'humour et il est venu voir Escazal. On a donc depuis 15 ans cette amitié qui s'est développée. Ouais, Escazal Film. Cette amitié qui s'est développée avec les petits meurtres d'Agatha Christie, ils adorent la série, ils nous font très confiance. Et ils nous ont proposé d'adapter en français les Diptynèques. Et moi, j'ai dit, mais on peut le faire uniquement si on a le droit de tout changer. Et il a dit banco. Donc, on a fait une adaptation contemporaine. On a quitté l'île. Bon, le roman se passe sur une île anglo-saxonne avec la pluie, le vent. Nous, on a mis ça en Guadeloupe. Hein. On a fait une espèce de Robinson Crusoe, d'aujourd'hui, Koh-Lanta. Et puis surtout, on a totalement transformé les personnages. Déjà, on a rétabli la parité, 5 hommes, 5 femmes. Ouais. Alors que dans le roman, il y a 7 hommes, 3 femmes. Et on a changé tous les mobiles des crimes. On les a mis en phase avec la société d'aujourd'hui. Donc, par exemple, il y a une histoire qui est liée au viol, aux violences faites aux femmes. Il y a une histoire de meurtre liée à un trafic de migrants. Il y a du harcèlement dans une entreprise. Voilà, on a eu ce droit-là et ce qui a fait que ça a rendu l'exercice passionnant. Ça a pris 4 ans d'écriture d'ailleurs, c'était très très difficile.
L'ayant droit qui dit d'ailleurs de vous que vous connaissez peut-être mieux Agatha Christie que lui-même, c'est quand même assez fort. Et c'est vrai qu'en fait vous avez gardé la trame des 10 personnes qui sont sans lien entre elles et qui se retrouvent toutes sur la même île et qui vont disparaître l'une après l'autre. Ça c'est conservé, mais tout le reste c'est vrai que c'est totalement modernisé.
C'est-à-dire que, en fait, ce qu'elle a de génial, Agatha Christie, et qui fait qu'elle, vous vous rendez compte, cette femme qui est née à l'époque victorienne et qui est encore aujourd'hui adaptée dans le monde entier. En fait, elle a une modernité incroyable parce que c'est une scénariste géniale. Elle a inventé des mécaniques extraordinaires et elle a toutes les audaces. Par exemple, les Diptynèques, elle raconte l'histoire du point de vue des meurtriers puisque les 10 sont des meurtriers. Et vous identifiez à eux, vous les aimez, vous n'avez pas envie qu'ils meurent. Alors, ils meurent les uns après les autres. Donc ça, c'est quand même gonflé. C'est-à-dire qu'elle nous fait partager le destin d'un assassin, quoi.
Ouais. Et alors, parmi les 10, on trouve notamment Samuel Le Bihan, Roman Boringer ou Guillaume de Tonquédec. Donc, un très beau casting. On sent que la chaîne a quand même beaucoup misé sur cette série.
Pardon ?
On sent que la chaîne M6 a beaucoup misé sur cette série, je disais, avec un très beau casting. Et d'ailleurs, la série, elle a été annoncée comme l'un des temps forts de la saison de la rentrée dernière d'M6. Elle a même été mise en ligne sur la plateforme Salto il y a déjà 10 mois. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi est-ce que M6 a autant attendu avant de le diffuser à la télé ?
Écoutez, je ne sais pas. Entre-temps, il y a eu la fusion TF1-M6. Est-ce que ça a un rapport ? Je ne suis pas dans le secret des dieux. C'est vrai qu'on a beaucoup, beaucoup attendu.
Mais oui.
Et finalement, je suis très heureuse que ça soit diffusé comme ça au mois d'août parce que c'est avant tout un divertissement. C'est-à-dire, Agatha Christie, c'est... Oui, il y a un côté retour à l'enfance dans le fait de jouer à se faire peur. D'ailleurs, moi, j'ai voulu qu'on en fasse un slasher grand public, hein. Slasher, c'est les films comme Scream où il y a un groupe de gens qui sont tués les uns après les autres et ça fait très peur, mais en même temps on sait que c'est un jeu. J'ai été chercher un réalisateur qui vient du film d'horreur, hein, qui s'appelle Pascal Laugier, qui a fait une réalisation brillante et donc c'est du divertissement pur, c'est du plaisir. Et je trouve que ça correspond assez bien. Voilà, on peut regarder ça en famille au mois d'août.
Ah oui, c'est extrêmement accrocheur. Moi, j'ai eu la chance de voir le premier épisode. C'est clair qu'on a très envie de voir la suite. On lui souhaite en tout cas le même succès qu'une autre série que vous produisez, je le disais, Les Petits Meurtres d'Agatha Christie, diffusée sur France 2 depuis 2009 et qui cartonne toujours autant, hein, avec des pointes à 5-6 millions de téléspectateurs. Ça veut dire que Agatha Christie, ça marche toujours, quoi qu'il arrive ?
C'est incroyable, bah oui, mais ça parle de l'être humain en fait, hein, des secrets, des mensonges, de la haine dans les familles, des tourments de l'âme humaine, on va dire. C'est ça sa grande modernité. Et puis elle a ce mélange unique d'humour et de cruauté, alors que nous on a poussé jusqu'au bout, puisque nous on fait carrément de la comédie, avec nos héros des petits meurtres. Hein, puis là, on est passé donc dans les années 70 avec des nouveaux héros.
Oui, c'est ça, parce qu'à chaque fois, vous changez de décennie. Et là, on arrive aux années 70 pour cette nouvelle saison qui arrive quand d'ailleurs ?
Alors, un mois de diffusion inédite. Je vais faire plaisir aux fans des Petits Meurtres. En novembre-décembre sur France 2, vous allez retrouver la commissaire Gréco, Arthur Dupont, Max Beretta. Enfin, tous les nouveaux héros des années 70 reviennent dans des épisodes à la fois très drôles et puis avec des super intrigues d'Agatha Christie, bien sûr.
Et puis un dernier mot sur une autre série qui arrive aussi sur TF1, que vous produisez également, Le Syndrome E, avec un casting plutôt original, hein, Emmanuel Béart, Cool Chen, ou encore Michel Bernier et Vincent Elbaz. Ça parle de quoi ?
Alors, c'est adapté du best-seller de Franck Hillier qui s'appelle Syndrome E. Moi, j'adore Franck Hillier. J'étais fascinée par ce roman, qui est un espèce de roman d'anticipation sur les dérives de la science. Comment est-ce que des recherches scientifiques peuvent transformer le monde et nous emmener dans un espèce de monde atroce. Donc c'est une intrigue fascinante, passionnante. Effectivement, on a réuni un casting assez original pour TF1. Oui. C'est en plein tournage. En plein tournage, et ça sera diffusé l'année prochaine sur TF1.
Parfait. Ouais. Et merci beaucoup, Sophie Réville. Et je rappelle donc que la série Ils étaient 10 commence ce soir sur M6 à 21h. À bientôt. Merci.
Merci beaucoup. Au revoir.
Dans un instant, on va partir en vacances avec vous, David Fuenkinos. Mais avant cela, c'est Thérapie Taxi qui nous replonge là dans les années 90, l'été 90. Merci d'être avec nous.
On a dévalé la pente en moins de deux. On a fait comme si on savait pas. On a évité les regards ambigus. On a fait comme si on pouvait pas. On a dessiné la zone, évité les roses. Repousser la faune, compliquer les choses. Mais maudit ami, je veux plus danser ce slow avec toi. Souviens-toi des années 90, quand dans la cour tous les jours j'étais ton roi. Tu as bien grandi et tu me brusques, et parfois même tu te loves dans mes bras. Mais jamais, jamais, jamais plus, car je le sais, je suis l'homme qu'on ne voit pas. Et si le soleil se lève sur les autres, je sais que c'est moi qui ai chassé les roses. Amour d'amour, tu le sais, c'est ma faute. J'ai bien trop peur pour casser les choses. On va s'en tenir simplement à l'enrôle. Je sais que c'est triste, mais je suis sous hypnose. Tu as décidé des règles en fin de jeu. J'étais teenager amoureuse. Puis le temps s'est écoulé en moins de deux. Fini les années délicieuses. Mais maudit ami, je veux plus danser ce slow avec toi. Souviens-toi des années 90, quand dans la cour tous les jours t'étais moi. Et si le soleil se lève sur les autres, je sais que c'est moi qui ai chassé les roses. Amour d'amour, tu le sais, c'est ma faute. J'ai bien trop peur pour casser les choses. On va s'en tenir simplement à nos rôles. C'est triste, mais je suis sous hypnose. Plus tu t'approches et plus j'appuie sur pause. Et seul tous les soirs.
Mais seul tous les soirs.
Et seul tous les soirs, je reste dans le noir.
Et seul tous les soirs, je reste dans le noir.
Et seul tous les soirs, je reste dans le noir.
Et seul tous les soirs, je reste dans le noir.
Amour d'amour, tu le sais, c'est ma faute. J'ai bien trop peur pour casser.
fait les choses. Et si le soleil se lève sur les autres, je sais que c'est moi qui ai chassé les roses. Amour, amour, tu le sais, c'est ma faute. J'ai bien trop peur pour casser les choses. On va s'en tenir simplement à nos rôles. Je serai là pour toujours ton épaule. Je sais que c'est triste, mais je suis sous hypnose. Plus tu t'approches et plus j'appuie sur pause.
C'était Été 90 de Thérapie Taxi sur Europe 1. David, chargez le coffre de la voiture, on part en vacances dans un instant.
Europe 1, le club de l'été. Thomas Hill.
C'est le club de l'été, notre invité David Fuenquino jusqu'à 11h. Et ça y est, on va partir en vacances avec vous, David. On va claquer la porte de la voiture, on met le contact et c'est parti. Alors je vous propose d'abord... On part peut-être du côté de Perpignan.
Avec
vous
grand plaisir.
Des racines là-bas à Perpignan. Vous y passiez vos vacances,
oui,
petit.
Oui, alors j'avais mes grands-parents qui habitaient à Perpignan, mes grands-parents paternels. Donc c'est vrai que j'ai passé de nombreux étés.
Quel souvenir vous en gardez ?
Le premier dont je me souviens, c'est en 1982, puisque j'avais regardé avec mon grand-père le match France-Allemagne, qui passait le match traumatisant pour tous les amateurs de foot. J'avais 8 ans, et je me souviens donc, c'est le premier souvenir que j'ai à Perpignan. Et là, ça a été particulièrement émouvant, parce qu'on a présenté notre film là, à Le 4, à Canet, plage, Canet en Roussillon, où j'allais à la plage, et de revenir comme ça... 30 ans après, pour présenter son film, c'était vraiment émouvant.
Et alors maintenant, si on s'éloigne de Perpignan, qu'on remonte vers la Bretagne, je crois que vous avez un amour pour Crozon, en Bretagne.
Crozon, oui, j'avais des amis qui avaient une maison en Bretagne. Et donc, quand j'étais plus jeune, vers 16-17 ans, j'ai découvert la Bretagne la plus sauvage, le Finistère, Crozon. Et j'étais assez obsédé par cette nature. Je m'y sentais très, très bien. Et c'est pour ça que... plus tard, j'ai mis l'intrigue de mon roman Le Mystère Henri Pic, qui tout se passe à Crozon. Et après, quand il y a eu le film avec Fabrice Lucchini, c'était assez étonnant d'avoir un amour de jeunesse comme ça pour cette région et d'y revenir plus tard pour le film.
Amour de jeunesse au sens propre, hein, je crois que c'est votre premier amour. Et...
Également,
c'est
ouais,
ça.
Tout à fait. Ouais,
tu étais à Crozon.
Ouais, ouais, tout à fait.
Et effectivement, un grand lien avec cette ville, parce que vous êtes même maintenant citoyen d'honneur de la ville. Vous avez votre nom gravé dans une roche à Crozon.
Vous avez
c'est
vu, hein, quelle carrière extraordinaire.
Ah ouais, c'est quand même pas mal.
Citoyen d'honneur de Crozon, non, pour moi, c'est très, très. J'étais très heureux de ça, parce que j'ai des souvenirs. Voilà, c'est la première fois où j'étais. Moi, je suis vraiment parisien, on vivait en banlieue.
Ouais.
C'est la première fois où j'ai été confronté comme ça à la nature la plus sauvage et la plus comment dire inspirante d'une certaine manière. Je trouve que c'est un endroit incroyable pour aller écrire.
Et ça a nourri vos livres. Alors
à
l'opposé de la Bretagne, il y a Nice et sa région dans laquelle vous avez vos habitudes également.
Vous avez remarqué que je suis très éclectique. Hein.
Bah oui,
m'a demandé de choisir trois endroits. J'ai pris Perpignan, Nice.
Vous voulez faire plaisir à tout le monde
et
en
la
fait,
Bretagne.
C'est ça.
Ouais, ou alors je voulais faire. Non, mais j'adore Strasbourg, j'adore le Nord aussi. Arras. Ne me coupez pas du public, mon film sort demain. Oh, c'est honteux ce que vous faites. Nice, j'ai découvert un peu plus tard. Alors souvent, c'est lié pour moi à des projets littéraires ou à des moments importants de ma vie. C'est vrai que j'ai beaucoup parcouru Nice et sa région quand j'ai écrit sur mon livre sur Charlotte Salomon. Charlotte, qui était en exil, c'est la peintre allemande qui était en exil à Villefranche-sur-Mer, à Saint-Jean-Cap-Ferrat. C'est vrai que ça, pour moi, c'est des... C'est être là, c'est comprendre sa peinture. C'est comprendre quand on est en connexion avec cette lumière inouïe du Sud. Voilà, c'était...
Et ça veut dire que quand vous travaillez sur un livre comme ça, vous avez besoin d'aller vous plonger vraiment dans les lieux, d'y passer du temps et de vous...
Sur ces livres-là, oui.
Ouais.
Évidemment, c'était une vraie biographie sur Charlotte Salomon et j'avais besoin d'aller sur toutes ses traces pour essayer de m'approcher d'elle. Même si ce n'était pas un roman, journalistique, mais je suis allé à Berlin, je suis allé évidemment à Villefranche-sur-Mer énormément pour pouvoir m'approcher d'elle d'une certaine manière.
Et puis bon, c'est aussi l'appel de la Méditerranée, de la gastronomie locale.
Effectivement,
aussi,
on est très très bien là-bas. Hein. C'est vrai que c'est assez plaisant d'y être.
Bon, alors mettons maintenant que je vienne avec vous en vacances, David Fuenquinos.
Oui.
Qu'est-ce qu'on va faire ? À quoi ressemblent vos journées ?
Alors, ça va être très sportif dans la première partie de la journée. Ah d'accord. Ah bah, soyez pas étonnés, mais pourquoi?
J'ai pas l'air sportif. Non, non, mais je pensais qu'on allait partir sur l'écriture dès le réveil. Ou...
J'ai jamais vu un regard aussi surpris, quoi. Pardon. Mais je suis incroyablement sportif, moi. Ouais. Ça va être. Non, mais j'adore le tennis. D'accord. Mon rêve, c'est de jouer au paddle tennis, mais il y en a très peu à Paris, et c'est vrai que c'est un petit peu dommage.
Ah, ça, c'est le nouveau sport.
J'étais à Saint-Jean-de-Luz pour présenter mon film, et le Chabi, qui tient le cinéma, joue 3 fois par semaine, je suis hyper jaloux. Non, donc tennis.
D'accord, voilà. À fond dès le
alors,
matin.
Je vais vous rassurer. Après apéro, ça va mieux ou pas?
Ah, bah, bien. Sur les coups de voilà, quoi 11h voilà. Hein.
Sur les coups de 14h.
Quand on se lève, quoi.
Très bien.
Non, apéro. Mais voilà, alterner des moments, surtout des moments de. Moi, je ne suis pas du tout l'été, alors. Autant je travaille beaucoup entre mes livres, mes films, mais alors l'été, je ne suis pas du tout quelqu'un qui peut travailler sous la chaleur.
Ah, vous ne travaillez pas du tout, vous n'écrivez pas, vous lisez
non,
quand même, j'imagine.
Je viens vous voir, Europe 1. Non, non, je lis énormément, effectivement. Ouais. Donc, je vais vous imposer une activité lecture.
Très bien.
Non, et puis après, l'été, c'est aussi beaucoup avec les enfants, donc je ne vais peut-être pas vous amener dans des clubs de vacances pour enfants.
Non, j'ai l'habitude.
Ça fait plaisir, bon, ça va.
Allez, on va vous mettre maintenant devant les vrais grands choix de l'été pour terminer. David, en vacances, est-ce que vous êtes plutôt thé ou tisane?
Plutôt thé quand même.
Bouc ou barbe?
Pardon?
Bouc ou barbe?
Barbe.
Vous avez tenté différentes choses, c'est pour ça. Ouais. Organisateur ou suiveur?
Ah, organisateur.
Lennon ou McCartney?
Ah non, je déteste cette question. Lennon, on va dire Lennon, s'il faut choisir.
Plutôt coucher ou lever de soleil?
Lever de soleil.
Jazz à Juan ou rock en scène?
Jazz à Juan.
Série ou roman?
Roman.
Sexto ou sextar?
Eh oh! Sextar.
Et en été, alors du coup, vous êtes plutôt écriture ou lecture?
Plutôt lecture, ouais.
Plutôt lecture quand même. Et vous préférez partir en vacances avec Monica Bellucci ou Carole Bouquet?
les deux, maintenant que j'ai formé ce duo, elles sont assez parables.
Vous êtes
obligé
de les emmener les deux. Oh, voilà. C'est dommage, ouais, c'est difficile, c'est difficile. Merci
évidemment.
Beaucoup, David.
On pourrait aller chez Carole à Pantelleria. Et puis, en tout cas, on ira en Italie avec les deux, ça c'est sûr.
Ah, c'est clair. Allez, dans un instant, le flash de 10h, et puis on ouvrira la météo des pages de Cécile Schlousse. À tout de suite.
Europe 1, 9h, 11h, le club de l'été. Thomas Hill.
Merci d'être avec nous pour la suite du club de l'été jusqu'à 11h. Si vous êtes avec nous depuis une heure, on ne peut que vous remercier. Et si vous venez de débarquer par hasard au détour d'un zapping effréné sur votre autoradio, ne cherchez plus. On a ce qu'il vous faut dans ce studio. Un auteur à succès, David Fonkinos, son film Les Fantasmes qui dégage un doux parfum d'érotisme et de drôlerie. Un blind test spécial chanson Olé Olé tout à l'heure, mais aussi Marjorie Adelson qui va partager avec nous ses bonnes idées.
Oui, une série parfaite pour les âmes romantiques, et puis ensuite on s'échappera en Bretagne du côté de Crozon.
Très bien, parfait. Et puis Joe Hume qui n'est pas en reste.
Non, pas du tout, jamais en reste, nous.
Mais je sais pas de quoi je vais
parler. On parlera des Rolling Stones qui, eux, ne sont jamais en reste d'anecdotes croustillantes. J'en partagerai une avec vous tout à l'heure.
Bon, alors si je vous dis qu'en plus on terminera par un coup de fil à un chef de Saint-Trope qui nous donnera une bonne idée de recette d'été, vous dites ce programme est magnifique. Eh bien, c'était sans compter sur la cerise sur le gâteau. The cherry on the cake, elle est là. La météo des pages de Cécile Schlousse.
9h, 11h, le club de l'été. Thomas Hill.
Comment ça va, Cécile Schlousse?
Ça va très très bien. Bonjour David.
Bonjour.
Bonjour. Eh bien, bonjour.
Bon, alors, on vous présente David Fonkinos, Cécile Schlousse, qui lit énormément pendant les tests. Une grande lectrice, mais pas vraiment de romans. Elle est plutôt sur des magazines de plage.
Voilà, des articles très intéressants et surtout essentiels à notre existence. Et j'en ai compilé quelques-uns pour vous. Et on commence avec un article du magazine Psychologie intitulé « J'ai une relation avec ma psy, est-elle toujours ma psy ?» Et c'est une vraie bonne question. Je m'en rappelle m'être fait un peu tripoter les miches par un boulanger un jour. Et je me demandais s'il allait quand même toujours me vendre du pain. C'est des questions qu'on se pose. C'est comme quand j'ai dit à toutes mes copines que je pensais avoir une relation avec ma gynéco, mais elles m'ont dit que c'était son boulot de regarder mon anatomie. Oh. Et du coup, qu'il fallait pas que je m'enflamme. Mais moi, je suis comme ça. Je m'enflamme très vite, David. J'ai vu 3 psys et elles m'ont largué toutes les 3. Enfin, larguée, elles m'ont dit que c'était mieux qu'on arrête là. Et oui, pourtant, j'étais à fond avec elles. Alors, attendez, une personne qui m'écoute pendant des heures sans m'interrompre
ça suffit à tomber amoureuse, même si je l'ai payé pour ça, n'est-ce pas, Thomas?
Oui, je suis payé pour t'écouter.
David, vous avez déjà eu une relation avec votre psy, mais seulement psychologique?
Non, même pas.
Même pas?
Non.
Non,
mais maintenant, vous me donnez envie. Hein.
Nouveau fantasme. Allez.
Allez, on enchaîne avec un article de Biba intitulé « Sobrement, hygiène intime, toutes ces choses qu'il ne faut absolument pas mettre dans son vagin ». C'est un vrai article.
C'est le titre entier.
Tout le monde va acheter Biba aujourd'hui.
C'est formidable, ça.
Alors, on imagine bien tous les témoignages intéressants qu'a dû recevoir cette journaliste pour se dire « Bon, il faut vraiment que je fasse une liste de ça, ça devient indispensable, merci madame ». Mais en lisant l'article, ce qui est étonnant, c'est qu'on se demande si on est sur Biba ou sur Marmiton, puisque sont cités notamment le yaourt.
Quoi ?
L'ail ou encore le persil. Étonnant. Voilà.
Un peu plus loin, la journaliste
nous dit que dans la liste des choses à ne pas mettre dans son vagin, il y a également le nid de guêpe. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé d'arrêter de lire cet article diabolique. J'imagine que quelques lignes plus loin, nous aurait également déconseillé de nous insérer des volets roulants ou encore un jet ski. Qui sait, le monde ne tourne pas rond, mais chacun ses fantasmes. Voilà, par rapport à votre film qu'on attend tous demain. Et on termine avec une info people qui nous est offerte par Galin, intitulé « Quand Isabelle Balkany se laisse caresser par son amant favori ». Et là, c'est le véritable choc. Qu'est-ce qui se passe?
Que ce soit le dernier article. Hein.
Y aura-t-il un coup de tonnerre dans le couple le plus glamour de Levallois, Patrick et Isabelle, qui sont un peu nos Brangelina à nous? Mais rassurez-vous, en lisant l'article, Isabelle dit bien qu'elle se laisse caresser par son amant favori, mais devinez qui c'est? Non, le soleil.
Comme elle est poète, c'est joli.
Merci donc à tous ces magazines. Allez, je vous laisse digérer toutes ces informations, mais ne vous inquiétez pas, je reviens jeudi.
Ah oui, oui, non, bah c'est bien qu'il y ait quelques jours le temps qu'on digère vraiment tout ça. Merci beaucoup, Cécile Schluss. Dans un instant, Marjorie Adelson va nous parler de série donc.
Oui, avec la série, la saison 2 de la série Modern Love.
Allez, on revient dans une minute, à tout de suite.
Europe 1, le club de l'été. Thomas Hill.
10h09 sur Europe 1 et c'est l'heure de l'indispensable de Marjorie. On parle série aujourd'hui avec toi.
Oui, puisqu'on est sur la lancée, on va continuer à parler alors non pas de sexe, mais d'amour. David Frankinos, est-ce que vous êtes un romantique ?
Très romantique.
Bon, ben ça tombe bien parce que la saison 2 de Modern Love vient tout juste d'arriver sur Prime Video. Alors on y apprend moins de vocabulaire que dans votre film Les Fantasmes, car ce sont des histoires plus classiques, plus romantiques.
Oui, j'ai vu qu'à la base c'est une chronique du New York Times, c'est ça ?
Oui, en fait c'est l'adaptation d'une rubrique de témoignages amoureux qui sort chaque semaine. Et il faut savoir qu'aux États-Unis c'est une chronique qui est très très lue. Alors la série compte 8 épisodes indépendants, une histoire d'amour par épisode, un peu comme dans votre film David Frankinos, sauf qu'ici il n'est pas question de fantasmes, mais plus d'histoires d'amour qui se termine ou qui commence tout juste. Il y a par exemple cette femme qui n'arrive pas à vendre sa vieille voiture toute cassée parce qu'elle lui rappelle son mari, ou encore ces deux jeunes gens qui se rencontrent dans un train pour Dublin, juste avant le confinement. Elle est étudiante et aimerait bien comprendre pourquoi lui s'est assis à côté d'une autre fille dans le train.
Je peux poser une question bizarre ?
Oui.
Quand vous êtes arrivé dans le train, pourquoi vous vous êtes assis avec elle ? Vous aviez le choix entre deux tables ?
C'est que je préfère être assis dans le sens de la marche, c'est tout.
Mais là, vous êtes dans le mauvais sens.
Oui, mais je suis face à vous. Alors je peux mettre ma névrose de côté, c'est une sorte de caprice et c'est vraiment pas grand-chose, hein. Ça n'a pas d'impact sur ma vie au quotidien.
On échange nos places ?
Oui.
D'accord.
Voilà, une belle histoire à venir, une belle histoire d'amour, sauf qu'évidemment, ils oublient d'échanger leur numéro. Voilà, la maman de l'étudiante, elle hallucine devant autant d'amateurisme.
Ça fait presque 2 ans que tu es à l'université et tu n'as toujours pas trouvé quelqu'un. Moi, j'avais couché avec la fac entière au bout de 2 mois.
Quoi ?
C'est bon, je rigole. C'était plutôt un semestre.
Sympa la mère.
Ouais, très sympa. Alors, comme souvent avec ce genre de format, il y a des épisodes plus ou moins réussis que d'autres. Celui que vous venez d'entendre, pour moi, c'est vraiment le plus réussi. Alors, ce qui est génial, c'est que tous les épisodes essayent de contourner les codes de la comédie romantique. Il n'y a pas vraiment de happy end à la fin. On est dans la réalité. Mieux, la série nous laisse parfois nous faire notre propre idée de la fin, selon qu'on soit de nature optimiste ou pessimiste.
Et c'est des histoires qui concernent tous les âges, du coup ?
Oui, il n'y a pas d'amour pour tomber amoureux ou pour vivre un chagrin d'amour. Donc on suit par exemple une jeune étudiante amoureuse de son meilleur ami depuis le collège, des trentenaires dont le couple bat de l'aile, ou encore une quinca divorcée qui a décidé de remettre le couvert avec son ex-mari.
Non, tu plaisantes. Van ?
Le mariage ne nous a pas réussi, mais le reste, ça marche.
C'est tordu ! Ça me choque ! Là, ça me choque !
Oui, j'en doute pas, toi qui es piégée dans une relation classique.
Je voudrais surtout pas te paraître abat-joie, mais...
On dirait que tu prends le chemin de la facilité, tu sais. Tu retournes à ce que tu connais déjà.
Je vais pas redevenir sa femme. On s'amuse. On n'a pas d'attente particulière.
Voilà, c'est une belle galerie de personnages servis par des histoires très modernes et très universelles en même temps. Il y a forcément un ou deux épisodes qui vous parleront.
Alors là, c'est la saison 2. Est-ce qu'il y a un gros casting comme pour la première saison ?
Bah, beaucoup moins. En fait, dans la saison précédente, il y avait des grosses stars comme Anna Tawé ou encore Dev Patel. Cette fois, les fans de Game of Thrones retrouveront Kit Harington, donc le fameux Jon Snow. Mais sinon, la série a préféré mettre en avant les histoires plus que son casting.
Et toute la série se passe à New York, c'est ça ?
Eh bien non, justement, c'est l'un des changements réussis de cette nouvelle saison. Elle nous fait voyager en Irlande, en Angleterre. Bref, on se rend compte que dans n'importe quel point de la Terre, eh ben, l'amour, c'est assez galère.
Ah oui, ça c'est universel. Y a pas
très
de
bonne chute, bien pessimiste.
Comme il faut.
N'est-ce pas deviner la chute
on parlait de New York, d'ailleurs, c'est un des lieux où vous allez beaucoup aussi, David Fonkinos, les États-Unis.
Oui, les États-Unis, beaucoup. J'allais avec mes parents, parce que ma mère travaillait à Air France, donc on voyageait beaucoup. Ah. C'est vrai que du coup, je suis lié totalement, plutôt à la côte ouest.
Ouais.
Voilà, les grands espaces. Le Grand Canyon. Et à chaque fois, je suis très heureux d'y retourner, d'avoir cette chance-là.
Et alors là, Marjorie nous parlait d'une adaptation. Votre film, vous, les Fantasmes aussi, c'est un peu inspiré, c'est ça, d'un film australien, si j'ai bien compris.
Oui, exactement. On a repris l'idée d'un film australien. Après, c'est vrai qu'on a écrit avec mon frère plus de 80%, je vais dire, de nouvelles histoires.
D'accord, c'est l'idée
Mais
de base, en fait.
C'était
c'est
l'idée, voilà. Ce qui nous amusait beaucoup, c'était de suivre ces personnages. Et puis, à un moment donné, on découvrait leurs fantasmes. Et là, c'est vrai que dans le film, c'est assez plaisant. On voit Karine Viard et Jean-Paul Rouve. Et puis, on se demande au début quel est leur fantasme. Ouais. On le découvre. Pareil pour Ramsey. On se dit, mais quel est son fantasme ? Et on le découvre à un moment donné. On inscrit à chaque fois le nom du fantasme à l'écran. Et ce procédé nous amusait beaucoup.
On peut le dire, le fantasme de Ramsey, c'est très particulier ça aussi.
Alors, c'est la saurophilie. C'est être excité par la sœur de l'être aimé. Donc, malheureusement, il fait tout. En fait, il est en couple avec Alice Taglioni. Ouais. Et il fait tout pour ne jamais rencontrer sa sœur parce qu'il sait que ça va être...
Ça va être terrible.
Ça va être fatal. Et au bout d'un moment, il est obligé de la rencontrer. Et là, c'est Joséphine Demeaux.
On a un peu les racines de ce film finalement dans le premier livre qui vous a fait connaître Le potentiel érotique de ma femme, un livre génial, un titre génial déjà, avec un homme qui se met à collectionner les faits et gestes de sa femme et notamment ses lavages de vitres. Ça aussi c'était un fantasme qui était quand même assez pointu. Hein.
Oui, c'était l'idée d'un collectionneur qui aime un moment de sa femme et qui fait tout pour qu'elle le reproduise à l'infini. C'est vrai que ce roman-là que j'ai écrit il y a presque 20 ans, vous avez totalement raison, aurait pu faire partie du film Les Fantasmes.
Ouais.
Puisque effectivement il est un petit peu tordu et il cherche à assouvir ce désir un peu particulier à tout prix.
Il n'y a pas d'adaptation ciné en perspective parce que j'ai l'impression que tous vos livres maintenant sont adaptés.
Alors,
au
le
cinéma.
Potentiel érotique de ma femme, il a été au théâtre par une jeune troupe et ils vont jouer d'ailleurs à Villeneuve-sur-Lot fin septembre. Mais sinon, non, j'ai eu plusieurs adaptations. C'est vrai qu'il y a eu La Délicatesse, ça, on l'avait fait avec Stéphane, avec Audrey Toutou et François Damien. S'il y a eu Les Souvenirs. Qu'avait adapté Jean-Paul Rouve avec Annie Cordy, Michel Blanc. Il y a eu Le Mystère Henri Pic aussi avec Lucchini et Camille Cotin. J'ai été très gâté. Mais après, ce n'est pas une obsession pour moi. J'ai plein de mes romans qui ne sont pas devenus des films où j'ai refusé certaines adaptations parce que j'aime bien l'idée qu'un roman aussi reste un roman.
Et le théâtre, justement, vous en parliez, vous en êtes où ? Parce que vous aviez une pièce, Ami, pour Canal+, qui a pu être jouée qu'une semaine en mars 2020. Vous allez la reprendre ?
Alors oui, alors j'ai en plein confinement, c'est vrai que j'avais deux pièces à l'affiche, donc c'était c'est un paradis qui s'est arrêté parce que j'avais mis beaucoup de temps à les monter, une première pièce avec Bruno Solo, Julien Boisselier et Mélanie Page, et puis une autre avec Kad Merad, Lionel Abelansky et Claudia Tagbo, donc les deux étaient à l'affiche. Le pauvre Kad Merad, qui avait mis en scène aussi le spectacle, a joué que 8 fois. Donc après ça devait reprendre en septembre, mais ça n'a pas repris, donc ils nous ont fait une captation. Mais ces deux pièces, 10 ans après et Ami, seront en tournée cette année.
Donc ça va revenir dans les mois à venir.
Voilà, je ne suis pas le plus à plaindre évidemment, mais ça a été forcément difficile de voir les théâtres s'arrêter.
Allez, dans un instant, le blind test, donc spécial, chanson olé olé. Mais avant ça, on va écouter Cat Century avec Please 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 sur Europe 1. I can feel you. Blossoms in my heart. Whenever you cry, they bloom for you. C'était Cat Centuries sur Europe 1. La musique ne s'arrête pas dans un instant. On joue au Blind Test avec vous, David Fonkinos. On revient tout de suite.
Europe 1, le club de l'été. Thomas Hill.
Mais oui, le club de l'été continue avec David Fonkinos qu'on reçoit pour son dernier film Les Fantasmes et son casting fantasmagorique en salle dès demain. David, chaque jour dans cette émission, on aime tester nos invités avec un petit blind test. Votre film s'intéressant aux fantasmes, on se devait de faire évidemment une liste de chansons. Olé, olé, est-ce que vous allez les reconnaître?
Là on est la question. On va voir, j'espère.
Vous êtes bon en blind test normalement ou pas?
Je suis excellent, vous allez voir. Je suis impressionnant.
Franchement, impressionnant. La première, elle est très facile.
Lio, je dois dire le titre.
Ah, ouais, ce que vous voulez,
Lio, ouais. Banana Split.
Bien joué, bien voilà. Sûr. Première chanson de la chanteuse Lio, on est en 79. Allez, la suivante. Ha. Énorme tube.
Alors, Marvin Gaye, ça donne envie, c'est une chanson qui donne envie de s'aimer. Et j'en profite pour faire un petit coucou à Manon. Il lui souhaitait un très bon anniversaire aujourd'hui, qui a 18 ans. C'est la fiancée de mon fils. Oh, et voilà, il vit une très belle histoire d'amour. Et alors, je leur souhaite plein de bonheur et d'écouter encore cette chanson aussi.
Ah, oh, c'est un bon
premier clin d'œil que je fais en 20 ans de carrière.
Ouais, c'est
pour
très
Manon,
joli.
Pour Manon, bon anniversaire.
Bah, on est à la radio, il faut faire des dédicaces.
Une belle casse dédiée à deux. David, pour Manon. Sexual Healing, dans lequel il dit quand même « Oh baby, je suis chaud comme un four ».
Oui.
Comme quoi, ça marche toujours mieux en anglais qu'en français. Hein. Allez, la suivante.
Mon idole, France Gall.
Ah ouais?
Ah ouais.
Pourquoi votre idole?
Ah, c'est ma chanteuse préférée.
C'est vrai?
Ah, j'adore France Gall et Michel Berger, évidemment.
Ouais.
Et
bon, alors là, c'est plutôt Serge Gainsbourg.
Pas vraiment cette période. Ouais. Hein, mais
Là, on est en 1966. Si d'ailleurs, ça n'a pas été un énorme succès. Vendu à moins de 50 000 exemplaires, ce qui n'était pas foufou à l'époque. Mais c'est devenu culte, hein, évidemment, les sucettes.
Ouais. Oui, si vous écoutez la version de Gainsbourg. Il y a des petites paroles beaucoup plus explicites que...
Ah oui, il a rajouté...
Alors, il n'a rien rajouté, il a juste transformé certaines prononciations qui d'un coup deviennent beaucoup plus bizarres.
Plus explicites encore.
Plus explicites.
Allez, la suivante. Obligé.
Joe Cocker.
Ouais.
Joe Cocker. Et le titre?
Unchained Mark, non?
Non.
Pas ça?
You can
leave your head on. Voilà,
oui, c'est tu ça. Peux garder ton chapeau. Ça aussi, c'est un délire.
C'est
un fantasme,
bon,
ça aussi. Ouais. Vous auriez pu le mettre dans la liste hein, pour votre film.
Tu peux garder ton chapeau.
Voilà, c'était dans la bande originale du film 9 semaines et demie, notamment, bien sûr. Allez, on retourne en France.
Ah, Mylène.
Ouais. Mylène Farmer. Mylène,
que j'adorais aussi, que j'ai vu en concert en 88.
C'est vrai?
Ouais.
Fan. Libertine. Là, c'est
ouais, 88, c'est grosse période. Quoi.
Bah, c'est ça, c'est sorti
c'est
en 86, tu vois.
Ouais.
C'est le premier grand succès de Mylène Farmer et ça lance sa carrière. Et puis il y a eu un clip qui était sensationnel.
Les clips, c'était phénoménal, ouais.
Vous avez jamais participé à la réalisation de clips?
On a fait juste un clip avec mon frère. C'était celui d'Émilie Simon. Suite au film La Délicatesse, on avait fait son clip Mon Chevalier.
Ah ouais, avec une chanson magnifique. Alors je sais pas si notre réalisateur peut
magnifique
la trouver,
Mon Chevalier.
Parce qu'il est très très fort en général, Cyril, et il est peut-être capable de nous sortir.
Par contre, avec le thème La Délicatesse, on est un peu loin du thème là, du blind test.
Oh oui, pardon, ce sera vraiment une parenthèse enchantée, mais elle est. Non, mais c'est vrai,
elle
que
est sublime
cette chanson.
Voilà.
Absolument,
ça a été
sublime,
magique de travailler avec
Émilie Simon. Ah non, on l'a pas. Ah bah, tu vois, j'ai préjugé de tes talents, cher Cyril.
Ah, il est vexé, ah, il est vexé là-bas.
Il est vexé. Allez, c'est pas grave, on va enchaîner avec la prochaine chanson.
C'est Sex Bomb.
Ouais, de
Tom.
Oui, Tom Jones. Tom Jones.
Ouais. Yeah. Une en général, les blind tests, ça se fait plutôt le soir.
Vous voulez qu'on vous amène à boire, c'est ça? Avec modération, bien sûr. Sorti en 2000, le single rencontre un grand succès. Ça a été premier en France quand même, et en Suisse aussi. Allez, la suivante.
Il s'aime et la traversée.
C'est beau, ça.
Gainsbourg, 69, année érotique.
Ouais. Ils vaincront les maléfices jusqu'en 70.
69. Qui chante là?
Jane.
Jane Birkin, bien sûr.
J'aimerais habiter dans cette chanson. J'aimerais là, poser mes affaires et habiter
là-dedans
jusqu'à la fin de ma vie, ce serait très bien.
Il y a une plume
c'est
là
beau,
en face. Hein.
C'est beau de dire ça.
Il y a quelque chose là. Allez, on repart avec une chanson de l'autre côté de l'Atlantique. Qu'est-ce que c'est que cette version?
Ah, c'est George Michael.
Oui.
Ah, ouais, tu sais.
C'est ça.
Il est hyper fort. Hein.
Il est très fort, parce que ça, c'est pas évident, ça. Ouais. Parce qu'on a tous le refrain, en fait, en tête. Premier single de l'album Face, 87.
Ah oui, premier single, je pensais qu'il avait commencé par Face.
Eh non. Enfin, c'est les infos que j'ai. Hein. Après, c'est tout ça de mon
avis. Je crois qu'il a lancé l'album avec Face, ouais.
Allez, prochaine chanson.
Bachou,
bien sûr. Alain Bachou. Avec ma petite entreprise qui ne parle pas du tout d'une entreprise comme on
bah, d'une, ça, ça, ça dépend comment vous voulez voir la chanson quoi. C'est...
Non mais c'est assez fort parce qu'en fait il y a une phrase qui fait vraiment basculer la chanson.
Ouais.
Qui à un moment il dit et mes doigts de palper là cette épiderme. Qui fait que je me dresse. Bon, bah
oui,
là,
on
a compris.
On a compris. Plus de doute possible.
Ah, mais j'avais jamais compris, moi. Merci de cette info. Hein. J'étais resté juste sur le refrain.
Mais moi aussi, pendant très longtemps. Je pensais que c'était
un chanteur social.
C'est ça. Un hymne aux PME. Moi, je pensais que c'était ça. Pas du tout. À la prochaine, je suis sûr que vous allez la trouver.
Ah, c'est pas Frankie.
C'est Frankie. Frankie. C'est Frankie Vincent, ouais. Bien sûr.
Il y a le sexe.
Allez, on
ça devient de plus en plus cru.
On s'ambiance dans le club de l'été dès le matin.
Là, il n'y a plus d'allusion discrète. Hein. Là, on est sur quelque chose de franc. Franc du collier, Francky. Allez, la suivante.
Ah, Barry White.
Ouais. C'est le titre qui est moins facile à trouver. Hein. Est-ce que tu l'as, Joe?
Let me love you just a little more. Ou
I'm gonna love you just a little more, baby.
Just a little more. Oh là là.
1973, Barry White.
Every day.
On revient en France.
Juliette Gréco.
Fort, il est très
et
fort.
Et Mylène Farmer avait fait une reprise aussi.
On aurait dû aller chercher du plus difficile, j'ai l'impression.
Ah, on est sur 100% de bonnes réponses.
C'est pas forcément tout simple là. Je trouve qu'il y a du.
On a un très bon niveau.
Ouais,
on
a un
très
bon
client. Déshabillez-moi, Juliette Gréco. Ça a été écrit pour une stripteaseuse avec qui il était en couple, l'auteur. Et dans le but d'en faire un petit numéro de défeuillage. Hein, et c'est vrai que ça a eu un certain succès derrière.
Ah, j'ai envie de me dessaper là. Tout
bah, vas-y, écoute, mets-toi à l'aise. Mets-toi à l'aise. Il fait très chaud dans ce studio. Et la suivante.
Gage Pati.
Oh là 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 là, incollable.
Gage Pati,
Étienne, 1987. Bon, la dernière, vous n'avez pas la peau. Ça, c'est le titre. Let's Talk About Sex. C'était Salt and Pepper. Ah,
ouais.
On a réussi à en coincer une. Bravo, en tout cas, vous avez été brillantissime. Dans un instant, on va continuer à parler musique avec toi, Joe.
Oui, tout à fait. Musique, sexe, drogue, Rolling Stones. Voilà, tout un petit programme que l'on aime et qui est le rock'n'roll.
Programme parfait, à tout de suite.
Europe 1, le club de l'été. Thomas Hill.
Et on est en train d'avoir des informations exclusives grâce à David Fonkinos qui nous dit que Laurent Delahousse est encore meilleur que lui au blind test. Et,
bah voilà,
et qu'il faut absolument qu'on l'invite.
Ah bah il est extraordinaire.
Il est extraordinaire. Ouais. Oh là là, on découvre des choses. Bon, alors on va découvrir d'autres choses avec Joe Hume parce que vous aviez envie de revenir sur une facette assez importante de la carrière des Rolling Stones, la facette stupéfiant.
Oui, exactement. Parce que depuis deux semaines, je vous parle beaucoup de musique, mais j'aborde un petit peu moins les à côté, les histoires parallèles qui participent à la légende des groupes. Parce qu'avant rock'n'roll, il y a Sex and Drugs, sinon la citation n'est pas complète. On revient en 1967. Les Rolling Stones viennent de sortir Between the Buttons, leur cinquième album, et leur code de popularité est au top, et l'avenir semble radieux. Jusqu'à un terrible jour de février, durant lequel une escouade d'une vingtaine de policiers fait un raid sur la maison de Keith Richards, aux Redlands, qui, avec Mick Jagger et sa copine Marianne Faithfull, sont en pleine descente d'acide.
Et alors, c'était quoi la raison de cette descente de police ?
Bah, c'était de coincer les Stones la main dans le sac et d'en faire un exemple, parce qu'en 1966-67, la presse anglaise, particulièrement la presse à scandale, fait ses gros titres avec des articles hyper accusateurs envers les rockstars en général, Donovan, Eric Clapton, les mecs de Cream, à qui ils reprochent d'avoir des mœurs douteuses et d'inciter la jeunesse à la dépravation.
Ah, carrément.
C'est donc carrément un journaliste qui rencarde la police sur une fête qui s'est déroulée la veille chez Keith Richards en leur disant « Si vous y allez, vous allez arrêter des personnes en possession de stupéfiants et moi j'aurai un article en or pour mon journal. » Cette descente et surtout les semaines qui vont suivre vont marquer un petit peu la fin de la fête pour les Rolling Stones et puis pour les Swinging 60s anglaises plus largement. Mais paradoxalement, malgré les problèmes juridiques et la pression mais alors constante de la presse, cet événement va aussi permettre aux Stones de solidifier leur image de groupe de rock dangereux, presque diabolique. À partir de 1967, on dirait presque que les Rolling Stones prennent un malin plaisir à foutre le boxon partout où ils vont et à véritablement faire ce qu'on leur reprochait, à savoir pervertir tout ce qu'ils touchent.
C'est-à-dire, on veut un exemple.
Bah voilà, je pourrais vous en citer vraiment plein, mais il y en a un, moi, qui me fait particulièrement rigoler, une histoire assez rocambolesque. Fin 1967, Keith Richards est en attente de jugement, justement, après cette descente. Il est forcé de rester cloîtré chez lui pendant que sa petite amie, de l'époque, Anita Pallenberg, est à Rome en train de tourner le film Barbarella de Roger Vadim. Petite BO très easy listening de Barbara, j'aime beaucoup.
Tu crois dans un ascenseur ?
Alors, n'en pouvant plus, le pauvre Keith Richards, il demande à Anita de lui faire parvenir un télégramme officiel rédigé par le réalisateur Roger Vadim en personne, racontant que lui voulait que Keith Richards écrive la musique du film Barbarella et que donc sa présence à Rome est indispensable pour visionner les rushs du tournage.
Alors qu'en fait, c'est un gros bobard.
C'est un bullshit de compétition, bien entendu, ça n'est pas vrai du tout. On ne vous la fait pas, à vous, mais comme on dit, plus c'est gros, plus ça passe, n'est-ce pas ? Les avocats de Keith Richards réussissent à lui obtenir une autorisation temporaire de sortie du territoire britannique. Ouais. Il se rend donc à Rome, se retrouve très rapidement VIP sur le plateau du film et invité à une fête de fin de tournage dans les appartements de l'actrice principale, Jane Fonda.
Ouh là là, je sens que ça va partir en vrille.
Et vous ne croyez pas si bien dire, mon cher Thomas, parce que comme dans chaque fête de qui, comme quoi, comme vous et moi, les invités se doivent de rapporter à boire et à manger. Et Keith Richards, avec ses copains qui l'accompagne, apporte un space cake, un gâteau au hashish donc. Ne faites pas ça chez vous. Alors que la soirée bat son plein, tout le monde devient soudain plus stone qu'un Rolling Stones. L'acteur John Philip Lowe, qui joue le rôle d'un ange aveugle dans le film, dira à Keith Richards qu'il n'aurait finalement jamais eu besoin de fausses ailes sur le tournage, tellement ce space cake l'a fait planer pendant des jours. Et si jamais vous tombez aujourd'hui sur le film Barbarella retransmise, regardez cette scène de l'ange aveugle, ça se voit parfaitement qu'il est complètement sur une planète tout à fait différente de la nôtre. Alors depuis ce jour, Keith Richards est connu comme le mec qui a fait planer l'intégralité d'un casting et d'une équipe de tournage à Rome alors qu'il était censé attendre son jugement pour possession de marijuana au Royaume-Uni. C'est ce genre d'histoire aussi qui crée la légende des Rolling Stones.
Bah, bien sûr, ça y participe.
Ne l'invitez évidemment. Pas ou invitez-le hein, sur le prochain tournage, David.
Hein, je j'adorerais. Hein.
Parce qu'à mon avis, il est encore capable de faire ce genre de coups fumants.
J'imagine.
Alors vous, les Rolling Stones, j'imagine ça fait partie de votre panthéon aussi, David Funkinos.
Oui, mais, évidemment, j'ai écrit un livre sur John Lennon, donc je suis peut-être un peu plus Beatles.
Voilà,
mais,
c'est ça.
Mais j'adore,
vous êtes très Beatles.
Évidemment, les Stones aussi, bien sûr.
Mais on ne peut pas choisir.
Et alors pourquoi,
pourquoi
John Lennon ? Qu'est-ce qui provoque
J'étais bouleversé par lui, évidemment, par sa musique, comme pratiquement tout le monde. Mais j'avais envie d'écrire un livre sur sa fragilité, l'idée qu'on peut devenir la plus grande star planétaire et en n'étant jamais pensé des blessures de l'enfance. C'est quelqu'un qui a été abandonné, qui n'a pas été aimé. Et il y a une fragilité qui me touche. Et puis l'histoire d'amour avec Yoko Ono, qui est complètement dingue, qui est mythique, qui est absolue, qui est excessive. C'est vrai que c'était un mythe romantique que j'avais envie d'aborder.
C'est amusant parce que vous ne parlez pas de musique, en fait. Vous parlez de
son histoire. Non, ce n'était pas une biographie musicale. Ouais. Évidemment, c'est assez un chanteur autobiographique. Il parle beaucoup de lui à travers ses chansons. D'ailleurs, c'est le premier, avec Dylan, à avoir écrit des textes plus personnels. Donc, en écoutant sa musique, on peut le comprendre beaucoup. Mais c'était plus une biographie à hauteur d'homme sur l'introspection.
Ouais. On se fait un petit Lennon ? Allez.
Ah, génial.
Imagine there's no heaven.
J'ai appris au piano.
C'est vrai.
Pour pécho.
Et dernier truc.
J'ai jamais pécho. Ouais.
Pas de, peu de succès. Peu
je
de succès.
Content.
Ah, ça fait toujours plaisir, Lennon. Dans un instant, notre guide Marjorie Adelson nous fait découvrir un bon plan pour nos vacances. Où est-ce qu'on part aujourd'hui ?
On part du côté de la Bretagne, dans la presqu'île de Crozon.
Très bonne idée, à tout de suite.
Europe 1, le club de l'été. Thomas Hill.
La suite du club de l'été, il nous reste quelques minutes jusqu'à 11h avec notre invité David Funkinos qui nous disait tout à l'heure qu'il aimait la Bretagne, qu'il aimait en particulier Crozon. Et bah ça tombe bien, direction Crozon avec Marjorie Adelson.
Oui, donc un endroit que vous connaissez bien, hein, on le disait tout à l'heure, c'est l'endroit de votre premier amour, l'un des romans de vos romans, Le Mystère Henri Pic, se passe là-bas aussi. Alors Crozon, c'est 7000 habitants à l'année, 30 000 l'été.
Oh,
faut dire que la presqu'île était un lieu exceptionnel, hein, l'idéal pour randonner en haut des falaises ou sur les plages. N'hésitez pas à visiter les grottes de Morgat, je prononce bien
Morgat,
ouais. Voilà, des grottes marines absolument sublimes. Et puis si vous voulez voir un panorama époustouflant, rendez-vous à la pointe de Dinan. Vous aurez de là une superbe vue, notamment sur le château de Dinan.
Et on peut le visiter, ce château?
Alors de loin, parce qu'en fait on ne peut pas rentrer à l'intérieur, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'intérieur. Et oui, ce n'est pas un vrai château, mais un ensemble de rochers qui en a la forme. Ils sont reliés à la presqu'île par une arche, d'où le nom.
Et alors pour ceux qui aiment les belles pierres, vous avez trouvé toujours dans le Finistère l'un des plus beaux villages de France.
Oui, on part à 15 km au nord de Quimper, à Locronan.
Tu connais ?
Ah bah bien sûr, je connais Locronan, village médiéval fantastique.
Exactement, en fait il suffit d'arriver sur la Grand Place pour avoir l'impression d'avoir été télétransporté à une
dans
autre
Game
époque.
Of Thrones, tout simplement.
Oui,
c'est ça.
Voilà. Toutes les maisons en fait sur place sont en pierre, en granit gris avec des toits en ardoise. Ouais. Alors à l'époque c'était un lieu très fréquenté par les druides, car proche de la forêt de Nevette. Alors ça vaut vraiment le détour, on a l'impression que le temps s'arrête. Et d'ailleurs plusieurs films d'époque ont été tournés sur place, Tess de Roman Polanski ou encore Un long dimanche de fiançailles de Jean-Pierre Jeunet.
Vous connaissiez, vous, Locronan ?
Oui, j'y suis passé aussi. Ouais. Ouais, bien sûr, c'est sublime.
Bon, et puis alors, vous avez trouvé aussi une activité pour toute la famille dans la ville même de Crozon.
Oui, ça s'appelle Péninsula et c'est un labyrinthe géant. Je ne sais pas si vous connaissez David Funkinos.
Non, pas Péninsula.
Bah alors, c'est un bon endroit pour aller avec les enfants. En fait, c'est un labyrinthe géant, tout en bois, à ciel ouvert. Donc. Et en fait, il y a un conte local qui se cache à l'intérieur. Et donc, c'est à vous de le retrouver avec des indices. Donc, pour sortir de là, on fait appel à son sens de l'orientation, bien sûr, et à son esprit de déduction.
Avis aux amateurs. Donc, on reste en Bretagne, mais on quitte le Finistère pour la plus belle baie du monde,
Morbihan.
Oui, on part à la découverte de la légende du roi Arthur au château de Quimper à Concoré. Nous sommes en ligne avec Élie Garnesson, l'un des responsables du centre imaginaire arthurien. Alors d'abord, bonjour.
Bonjour Élie.
Alors,
bonjour à vous.
Qu'est-ce que c'est que ce centre imaginaire arthurien ?
Alors le centre de l'imaginaire arthurien, c'est un lieu un peu particulier. C'est une association déjà qui date de 1988 et qui a pour mission de mettre en valeur ce que l'on appelle la matière de Bretagne.
Alors,
la matière de Bretagne, c'est l'ensemble des légendes celtes, des mythes celtes surtout, des légendes arthuriennes et puis également des légendes de Bretagne et de Brocéliande.
Alors vous organisez des événements pour raconter les légendes arthuriennes, comme par exemple des pauses contées, c'est ça ?
Exactement. En fait, plusieurs fois dans la journée, on a ce qu'on appelle donc des commentaires contés où on parle de la légende arthurienne et on explique un petit peu d'où est-ce qu'elle vient, comment est-ce qu'elle a évolué au travers du temps et pourquoi est-ce qu'on en parle encore de cette légende si particulière. Et puis, on a des pauses qui nous permettent justement de mettre en valeur la technique du conte avec des conteurs de Brocéliande qui viennent expliquer, transmettre les légendes.
Et il y a aussi une de vos balades phares dans les jardins du château, je crois, qui s'appelle Le clerc et la sorcière. Racontez-nous un petit peu, c'est un joli titre, qu'est-ce que c'est ?
Eh bien, en fait, tout simplement, c'est que nous avons donc deux intervenants qui sont spécialistes en botanique et qui font visiter le parc en vous présentant les plantes qu'il y a à l'intérieur et en vous donnant des informations sur la manière dont elles étaient vues au Moyen-Âge, les vertus qu'on leur portait et ainsi de suite.
Voilà, et puis je crois qu'il y a aussi une exposition dans le château, en plus de tout ça.
Tout à fait, une exposition sur la légende du roi Arthur, avec une scénographie qui se renouvelle tous les 2-3 ans.
D'accord, et bien merci beaucoup Élie Garnesson. Je rappelle que le centre imaginaire arthurien propose des visites et des contes tout autour des légendes arthuriennes, justement.
Merci beaucoup. Merci Élie. David, vos héros, vos histoires, c'est souvent lié à la vie et aux situations quotidiennes. Ça vous tente pas, vous aussi, de vous lancer comme ça dans une grande épopée, une grande aventure du genre Chevalier de la Table Ronde ou Légende du Roi Arthur ?
Non, je crois que j'en serais vraiment incapable. Totalement contemporain ou moderne, et c'est vrai que j'aime baser mes histoires dans le réel aussi. Ouais.
Et c'est ça votre truc, c'est de vous inspirer de ce qui vous entoure. Comment est-ce que vous travaillez ?
Alors, je suis plutôt un écrivain de fiction. C'est vrai que j'ai pas la plupart de mes romans, que ça soit La Délicatesse, Le Mystère Henri Pic ou La Famille Martin, mon dernier livre, sont pas vraiment inspirés de faits réels. Je suis plutôt quelqu'un de l'imaginaire, mais c'est vrai que je me verrais pas pousser mon imaginaire jusque dans les méandres de la chevalerie antique.
Peut-être un peu moins La Famille Martin, parce que là, l'idée c'était
dernier roman, La Famille Martin, alors c'était un jeu. C'est vrai que les lecteurs se demandaient si c'était vrai, c'était pas vrai, puisque c'est l'histoire d'un écrivain censé être moi qui descend dans la rue et qui arrête la première personne qu'il croise et décide d'en faire le personnage principal de son roman, en se disant que ce qui est vrai, toute vie est potentiellement romanesque et intéressante à raconter. C'est comme ça que je rentre dans La Famille Martin, mais voilà, c'est un mélange aussi de fiction et de réalité.
Oui, c'est ça, il y a une part des deux. Bon, dans un instant, on passera un coup de fil au chef Arnaud Donquel, mais avant ça, on va écouter Axel Bauer avec Éteins la lumière, un titre que vous auriez pu mettre dans la bande originale de votre film Les Fantasmes. Tiens, d'ailleurs, bande originale, ça aurait pu être le sous-titre de votre film. Je vous laisse méditer là-dessus. Éteins la lumière, Axel Bauer sur Europe 1. Merci d'être avec nous.
À force de se voir, on ne se voyait plus. À tant vouloir y croire, on n'y croyait plus. Et ne me laisse pas, si tu n'es pas sûr. Loin, loin de toi, tu me quittes ou pas. Cette petite aventure. Le cœur est si
C'était Éteins la lumière de Axel Bauer sur Europe 1. On n'éteint pas encore la lumière, nous, dans un instant, on passe à table, ne bougez pas.
Europe 1, 9h, 11h, le club de l'été. Thomas Hill.
Une cuisine qui vous ressemble, c'est possible. Ixina s'engage à dire oui à tous vos rêves de cuisine. Pour trouver l'inspiration et profiter de conseils sur mesure, rendez-vous dès maintenant dans l'un des 170 magasins Ixina ou sur ixina.fr. Ixina, élue meilleure chaîne de magasins pour la troisième année consécutive.
À tous ceux qui font des sarbacanes avec des effaceurs, des billes avec des cartouches d'encre, des chaînes avec des trombones, des avions avec des feuilles, des murailles avec des livres. Et surtout à ceux dont on se demande bien ce qu'ils vont réussir à inventer cette année. En ce moment, Intermarché vous offre 50% de remise immédiate sur une sélection de produits papeterie. Allez hop, on note ça dans son agenda. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 22 août, modalité magasin et drive participants sur intermarché.com.
Europe 1, le club de l'été. Thomas Hill.
De retour pour les toutes dernières minutes de ce club de l'été avec notre invité David Fuenchino. C'est comme chaque jour, on va passer un coup de fil au chef d'un restaurant pour sa recette. Aujourd'hui, on est avec Arnaud Donquel, le chef du restaurant La Vague d'Or de l'hôtel du Cheval Blanc à Saint-Tropez. Bonjour Arnaud.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors, j'ai vu que vous étiez triplement étoilé au guide Michelin. À seulement 35 ans, vous avez décroché la troisième étoile. Qu'est-ce qu'on cherche dans une carrière de cuisinier après ça ?
De donner de l'émotion.
Ouais.
Je crois que c'est de faire les choses le plus avec le plus de sincérité possible. Et puis
de les garder aussi, j'imagine.
De rendre les gens un peu heureux.
Ouais. Voilà. De rendre les gens heureux, c'est ce que vous faites dans votre restaurant. C'est Alain Ducasse qui vous a recruté, c'est ça, au départ ?
Ouais, à l'époque, j'avais envoyé mon CV et il connaissait le propriétaire. Le propriétaire, un ancien propriétaire, m'avait appelé et il a dit, il m'a plutôt conseillé, on va dire.
D'accord, et vous emmenez ensuite au Plaza Athénée à Paris.
Alors, avant, j'avais été au Plaza Athénée à Paris avec Alain.
Ouais.
Et puis, Saint-Tropez a été ma première place de chef en 2005. Et puis, voilà, on a commencé la gastronomie vraiment en 2007-2008. Et puis, la deuxième étoile est tombée en 2010. Et une troisième étoile en 2013.
Bah, bravo. Alors là, aujourd'hui, on vous a demandé un exercice particulier pour un grand chef comme vous, c'est de nous offrir une petite recette qu'on peut reproduire à la maison. Alors, c'est pas évident, ça. Quelle recette vous allez nous proposer ?
Alors, moi, je voulais faire une recette qui a trois axes, qui permet d'être et à la fois une sauce, à la fois une garniture et à la fois une entrée. Alors, qu'on peut faire avec une viande ou avec un poisson. Et donc, j'ai appelé ça un peu la Vierge Simplissime. Voilà, donc c'est une... On prend des petites tomates cerises.
Ouais.
On les coupe en quartier. On fait des brunoises de courgettes.
Donc, on découpe en tout petits morceaux la courgette, hein, c'est ça ?
Ouais, exactement, en petites brunoises.
Ouais.
Une échalote ciselée. Mmh. Un peu de cébette. Des pignons de pain torréfiés. Marjolaine, basilic, céleri. On met quelques gouttes de vinaigre de vieux vin, un soupçon de jus de citron ou de yuzu, c'est encore mieux parce que ça donne un petit parfum qui nous enlève un petit peu plus. On assaisonne ça et on les laisse mariner pendant 45 minutes, une heure, et après on incorpore l'huile d'olive. Pour
monter la sauce.
Du parfum. Ouais. Voilà. Et l'huile d'olive citron serait l'idéal avec un tout petit peu d'huile d'olive à la bergamote. Voilà.
Ah,
donc ça, l'avantage de cette sauce, c'est que c'est une sauce condimentée qui peut très bien servir avec un carpaccio, avec un loup grillé, un poisson grillé et des viandes au barbecue, pareil, snacké.
Ouais.
Et c'est assez merveilleux parce que c'est frais, c'est assez simple à faire, ça ressemble légèrement à une salade de tomates, parce que ce qui est important, c'est que la tomate dégorge en fait, et qu'elle ressorte un maximum de son jus.
Eh ben, Très bien, ben on va tester ça, même si. Alors, c'est pas.
Non, mais je vais réécouter tout.
Oui, oui, il faut avoir tous les ingrédients déjà.
Et tout reprendre toute la recette en replay pour bien tout assimiler.
Mais ça a l'air pas mal du tout, cette affaire. Hein. Et alors, j'ai vu qu'on pouvait retrouver vos plats aussi, donc non seulement dans votre restaurant, Arnaud, mais aussi maintenant chez une grande compagnie aérienne française, puisque vous avez fait l'intégralité des plats qu'on va retrouver chez eux. Comment est-ce qu'on cuisine comme ça pour des gens qui vont être en vol? Est-ce que ça change la manière de fabriquer vos plats?
Alors oui, ça change beaucoup parce que bon, il a fallu écouter quand même des experts, parce que faire à manger avec dans une grande altitude et en plus géré par des gens d'équipage en fait, hein, qui sont passionnés, donc c'est une demande de leur part que de s'occuper de ce type de repas.
Oui, oui, puis la perception du goût n'est pas la même, paraît-il, quand on est en hauteur.
Exactement. Donc, on a formé les équipes. On a fait énormément d'essais. Et ce qui aussi a pris cette décision, m'a donné l'envie de le faire, parce que c'est compliqué de faire la cuisine à quelqu'un d'autre.
Ouais.
Et que ça puisse durer pendant 3-4 mois. En fait, il n'y a pas beaucoup de repas en fait en première. C'est pour la première d'Air France.
Ouais.
Et donc il y a très peu de repas. Et il y en a 60, 70. Donc ce qui fait que c'est pas des gros volumes. Et on arrive encore à faire des plats très cuisinés, on va dire. On arrive encore à faire des choses où l'homme a toute sa place dans la sensibilité de construction du plat.
Eh ben parfait, merci beaucoup Arnaud Donquel. N'hésitez pas à nous envoyer quelques-uns de vos plats, on vous donnera l'adresse d'Europe 1. Merci d'avoir été avec nous ce matin.
Merci.
À bientôt. Vous cuisinez un peu, David Fuenquinos?
Oui, oui, je fais des soupes.
Ah.
Mais là, en ce qui concerne la recette, je crois que je préfère aller directement dans son restaurant.
Au restaurant directement.
Et qu'il nous prépare ça lui. Hein, parce que...
Mais soupe, c'est pas mal déjà.
Il y a un certain niveau. Légumes, beaucoup de soupe. Ouais.
Vous savez quoi, j'ai une bonne nouvelle, on a retrouvé la chanson d'Émilie Simon.
Ah, voilà.
Quelle
régie extraordinaire.
C'est fou ça, ça nous a pris qu'une demi-heure.
Émilie Simon, c'était vraiment mon idée, mon rêve qu'elle puisse faire la musique de notre film La Délicatesse.
Ouais.
Et c'est vrai que je n'oublierai jamais quand elle nous a fait écouter ça pour la première fois avec mon frère. Et voilà, pour nous, elle a été partie intégrante de ce film-là, avec beaucoup, beaucoup de chansons dans le film d'elle. Et ça a été magique de collaborer avec elle. C'est vrai que la musique est très importante. C'est vrai que sur notre dernier film, Les Fantasmes, c'est un film avec plusieurs histoires, donc il y a beaucoup de musique, il fallait choisir des chansons qui accompagnent.
Ouais.
Non, c'était pas simple, mais surtout parfois en termes de budget, on peut pas tout avoir.
Ah, oui.
Forcément, oui, ça coûte cher d'utiliser des chansons, mais on a des compositeurs vraiment formidables. Et,
donc parfois, vous pouvez leur dire, imite-moi quelque chose, imite-moi ce style.
Ouais. On donne des musiques témoins. Voilà.
Ouais, d'accord.
Mais c'est vrai qu'on a montré beaucoup le film cet été en avant-première.
Alors,
on nous a beaucoup parlé de la musique.
C'est vrai.
Ouais, parce que c'est vrai qu'on a, je pense que ça accompagne vraiment bien le film. Mais sinon, oui, les retours, c'était plus sur les fantasmes. Les gens nous racontaient après leurs propres fantasmes. Donc on a de quoi faire le numéro 2, ça c'est certain.
Bah, j'allais vous le demander.
C'est vraiment un film qui suscite forcément son propre questionnement par rapport au désir. Quand on voit le désir des autres, on s'interroge forcément
bien
aussi.
Bien sûr, ça donne des idées.
Ça donne des idées. Voilà, on espère que c'est un film qui donnera des idées.
Et puis là, c'est vrai qu'on a 6 sketchs avec une galerie de personnages formidables, je l'ai dit, hein, des grands acteurs dans ce film. Est-ce que vous pourriez refaire 6 autres sketchs demain et avoir un numéro 2 des fantasmes?
Bah complètement, c'est vrai qu'il y a encore tellement d'histoires, de toute façon c'est infini, les histoires de désir, les histoires de couple. Ce qui nous intéressait, c'était aussi de raconter toutes les façons d'avoir ce rapport au fantasme.
Ouais.
C'est-à-dire qu'il y a certains fantasmes qu'on a besoin de partager avec son conjoint, c'est le cas des histoires avec Karine Viard et Jean-Paul Rouve notamment, et puis des histoires où on subit son fantasme, Céline Salette qui se découvre qu'elle a son plaisir, c'est de faire pleurer Nicolas Bedos. Donc elle rentre le soir chez elle, elle lui dit ça te dirait pas, on pourrait se regarder un petit film, La Liste de Schindler, j'ai jamais vu. Donc
ça.
Voilà, subir ce fantasme là
ouais,
et puis
l'alarme. Ouais.
Voilà, il y a ceux qu'on qu'on subit, parce que parfois on est soumis à son désir. Donc ça pose vraiment, ce film-là, toutes les questions de son rapport au fantasme.
Et allez voir ce film Les Fantasmes qui sort donc demain dans les salles. Ça devrait vous donner quelques idées. Merci mille fois David Foguinos d'avoir été avec nous pendant ces 2 heures. Demain dans le club de l'été, on aura le plaisir de recevoir l'excellent comédien Maurice Barthélémy. Merci à toute l'équipe à la préparation de cette émission.